Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Si vous nous
rejoignez. Les grandes voix.
Voici le débat des grandes voix, toute l'actualité en débat sur Europe 1 avec notre trio ce soir jusqu'à 19h. Laetitia Krupa, journaliste politique, François Claus, grand reporter, rédacteur en chef sur Europe 1, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Madame, messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Wendy.
Laissez les gens vivre, dit en aparté Emmanuel Macron. Mais ce discours est-il encore recevable face à des admissions en réanimation qui augmentent de 48% en une semaine? Olivier Véran reprend ses points quotidiens. Est-ce une bonne chose? On parlera de la 5G contre la lampe à huile. Le débat posé en ces termes a-t-il du sens pour vous? Et nous reviendrons également sur cette étudiante voilée devant la commission d'enquête parlementaire. Nouvelle provocation pour certains élus.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
D'abord, vos coups de cœur et vos coups de griffe pour commencer. Le vôtre, en premier lieu, Laetitia Krupa, il s'agit d'une femme en politique, point d'interrogation.
Oui, alors, si vous me le permettez, Wendy, évidemment, j'ai envie, dans ces coups, de poser des questions. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Pourquoi Marion Maréchal est-elle interviewée alors qu'elle ne représente rien officiellement sur l'échiquier politique et qu'elle répète qu'elle ne sera pas candidate en 2022? Élément de réponse.
Invité Jean-Jacques Bourdin cette semaine.
Exactement. Mmh. Et du Figaro la semaine dernière.
Oui.
Parce que tout est dans le « officiellement ». Les médias font le pari qu'elle pourrait entrer dans la course à la présidentielle, donc essayent de la sonder, lui demandent de commenter l'actualité politique en filigrane. Dans ces deux interviews, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle lorgne sur la droite de LR, rien de nouveau, et qu'elle a refusé d'être chroniqueuse pour la chaîne LCI parce qu'elle l'aurait lâchée à la première polémique, dit-elle. Ces gens nous approchent pour faire de l'audimat, mais refusent tout pluralisme intellectuel. C'est une censure indirecte. On connaît cette méthode, se servir des médias tout en leur tapant dessus. Alors je reviens à ma question. Pourquoi continuer à inviter Marion Maréchal? Est-ce que cela ne risque pas de rendre crédible et d'alimenter un destin politique qui, pour l'instant, n'existe pas?
Ah, ça revient à la question que vous posez souvent, ce principe que les médias peuvent aussi créer des personnalités, des créatures, voire même parfois.
Oui, parce que c'est une habitude qu'on donne aux Français en répétant que Marion Maréchal pourrait potentiellement être la candidate de la droite de la droite. On l'accrédite, cette hypothèse.
Donc on boycotte la prochaine interview?
Écoutez, je ne suis pas patron de chaîne, mais je dirais oui.
Vous n'êtes pas censeur.
Non, mais
Frédéric Dabi.
Ce que dit Laetitia est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu mon coup de griffe sur la scénarisation extrême de la prochaine élection présidentielle avec toute une série émanant du microcosme, comme disait Raymond Barre, politico-médiatique, de commentaires, de prédictions. À 18 mois, on entend des certitudes assénées, des affirmations incritiquables sur... ce que sera l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'a aucune chance, la droite n'aura pas de candidat et sera battue. Et là encore, la semaine dernière, une interview d'Anne Hidalgo dans Le Point que j'ai lue de manière attentive, la phrase la plus proche d'un début de prolégomène ou de pogrom
de candidature,
ouais. C'est « je prendrai toute ma part dans la bataille qui s'annonce ». Et là, voilà, nous sommes partis. Et tout ça sans prendre en compte l'histoire de l'élection présidentielle, toutes les surprises. Et reprenons la dernière. Un an et demi avant, Emmanuel Macron n'existait absolument pas comme candidat. On était plutôt sur une victoire d'Alain Juppé à la primaire. Mais il y a un véritable emballement. Moi, en tant que sondeur, j'incite à une véritable prudence. Les enquêtes d'intention de vote présidentielle sont intéressantes. Elles ne sont pas prédictives du résultat.
Sûr,
et pour cette élection, et même pour la prochaine, dans 6 mois, mais tout le monde l'oublie, il y a des élections régionales. L'offre électorale n'est absolument pas connue. Donc, on a eu Marine Le Pen qui ne serait pas candidate. Et là encore, récemment, la couverture du Point, Anne Hidalgo. Et si c'était elle, même si objectivement, Anne Hidalgo coche des cases, si je puis dire, femme, sociale, écologie, dynamique de victoire, union de la gauche. Et que c'est vrai qu'à la gauche du président Macron, il y a maintenant un espace électoral béant que personne n'incarne.
Et puis ses amis quand même l'entourent et l'incitent. Hein, Jean-Luc Romero, par exemple,
qui appuie sa candidature. Vous oubliez juste un détail qui me semble pour moi fondamental, c'est son impopularité. Enfin, on a complètement oublié qu'Anne Hidalgo était impopulaire dans l'opinion publique.
La populaire, mais réélue à Paris.
Ma chère Laetitia, la popularité ne fait pas l'élection, sinon nous aurions eu à l'Élysée Bernard Kouchner, Simone Veil, Jack Lang. Anne Hidalgo, moi je m'intéresse qu'aux élections, elle a largement remporté les élections du 15 mars et du 28 juin.
Parce que LREM a complètement saboté sa campagne.
Il y a beaucoup de choses à dire.
C'est une femme que vous mettez à la une, décidément, avec votre coup de cœur. Twitter, François Claus.
Exactement, et elle est bien réelle, elle, puisqu'elle est en poste. Alors, si je vous dis Ursula von der Leyen, vous me direz, c'est peut-être un peu austère. Si je vous dis la thématique l'Europe, encore plus austère. Et pourtant, mes amis, quand même, quel beau discours nous avons eu cette semaine. Et je regrette que dans les médias français, on ne l'ait pas plus cité, ce grand discours sur l'Union. On sait comment c'est important aux États-Unis, si ça le devenait également, l'état de l'Union européenne, avec quelques grands principes très simples qui pourraient peut-être demain redonner un nouveau souffle à l'Europe, la fin de l'unanimité, notamment sur le positionnement géopolitique, qui aujourd'hui paralyse totalement l'Europe, l'empêche de s'exprimer clairement sur la Biélorussie ou sur la Turquie, la remise en cause de ce fameux principe de Dublin sur les migrations, vous savez, la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile d'un réfugié par le pays qui l'accueille, qui a mis à genoux l'Italie, qui met à genoux Malte ou la Grèce. Il faudrait enfin plus de solidarité, très beau principe que de le remettre enfin en cause. Et puis le Green Deal, 750 milliards de dettes qui seront en partie financées par une nouvelle taxe verte, sans oublier l'intransigeance sur la défense du terreau démocratique, la défense des minorités qui a été formulée avec beaucoup de conviction. Bref, on a envie d'y croire à cette Europe-là et on aura besoin de l'Europe demain. J'ai envie de dire que depuis la poignée de main Mitterrand-Kohl, il n'y avait peut-être pas eu ce souffle. Ce sont des mots pour le moment, mais avec la présidence allemande dans les 6 mois qui viennent, nous aurons peut-être des actes.
Un discours que vous relayez dans votre coup de cœur ce soir, François Claus. Est-ce que vous me permettez de reparler, parce que nous l'avons déjà fait un petit peu dans le journal, d'une femme d'exception, celle qui fut saluée ainsi ce matin par Emmanuel Macron, surnommée RBG aux États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême américaine. Alors, les Français la connaissent peut-être mal, cette femme qui est
une icône,
pour la défense de l'égalité femmes.
Elle a eu droit même... Vous imaginez un juge en France qui aurait des t-shirts à son effigie. vous imaginez
oui,
une émission avec elle.
Là, vous poussez le bouchon, c'est pas comparable. Les juges de la Cour suprême,
c'est pour montrer quel symbole elle a été pour les femmes, parce que bien avant MeToo, dans les années 70, elle avait su se battre et poser le débat, et qu'elle en est devenue le porte-parole, et que l'Amérique perd une très grande voix de la défense du combat des femmes aujourd'hui.
Frédéric David.
Avec en plus une controverse politique à 7 semaines de l'élection présidentielle américaine. Très clairement, elle aurait souhaité que Donald Trump, que elle ne, son remplaçant ou sa remplaçante ne soit pas nommée ou soit nommée par un prochain président. Et tout de suite, on a entendu Donald Trump vouloir la remplacer, car c'est un enjeu politique. Si le scrutin est extrêmement serré, on ne sait pas ce qui peut se passer. On se souvient du précédent récent. Il peut y avoir une bataille juridique très très forte autour de la Cour suprême au lendemain, et même une sorte de deuxième tour, si je puis dire, de l'élection présidentielle américaine.
Frédéric Dabil, Laetitia Krupa, François Claus, nos grandes voix en débat jusqu'à 19h. Comment informer à bon escient sur le Covid et quel discours suivre aujourd'hui? Le laisser faire, le laisser vivre tout en étant extrêmement scrupuleux, ou le discours davantage de fermeté et de rigueur prôné par Olivier Véran, absent ces dernières semaines de la scène médiatique? Il revient avec ses points quotidiens et on vous attend sur le sujet.
Week-end. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, elles sont là, nos grandes voix du week-end. Laetitia Krupa, François Claus, Frédéric Dabi. Parlons du Covid, de la gestion de crise. À 19h15, je serai avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui nous fera part aussi de son retour d'expérience de manière très pragmatique. Il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent, comme André Comte-Sponville, pour dire vraiment qu'il est devenu insupportable d'entendre, de lire le décompte des cas recensés au quotidien. Mais que disent les études quand vous sondez les Français, avec l'IFOP notamment, Frédéric Dabi, est-ce que l'inquiétude sanitaire reste la préoccupation principale du moment?
Alors, elle reste bien sûr haute, hein, même si on a vu qu'il y avait d'autres priorités pour les Français, l'insécurité, la délinquance. Ce qui est intéressant depuis une dizaine de jours, c'est un reflux de cette inquiétude sanitaire qui reste majoritaire, mais qui se retrouve au niveau, à l'étiage qu'il était au moment du déconfinement, quand le déconfinement paraissait réussi et qu'on était sur une logique, si je puis dire, août 1944, c'est-à-dire le 11 mai, on revient à la vie normale. Ce qui ne change pas, Wendy, c'est que l'inquiétude économique, le sentiment qu'une crise terrible arrive, on a des mauvaises nouvelles jour après jour, est complètement intériorisée et massive dans le discours des Français. Là, c'est vrai qu'il y a dans l'inflexion, ce qui paraît être une inflexion présidentielle, le fait qu'il n'ait pas suivi à la lettre, le moins qu'on puisse dire, les injonctions du Conseil scientifique, c'est un équilibre, un dosage à trouver entre contrainte, serrage de vis et responsabilité individuelle dans un contexte où les Français respectent de mieux en mieux les gestes barrières. Et il y a peut-être, je dirais ici, une sorte de parenthèse pour d'une bonne opportunité. D'une part, les Français ont pleinement intériorisé qu'il faudra vivre longtemps avec le virus. il y a un rejet et une crainte absolument fantasmatique d'un reconfinement généralisé. C'est pour ça que la décision, l'annonce de Olivier Véran ou son souhait de peut-être fermer des bars, etc., c'était peut-être vu pour les Français comme une étape vers un reconfinement. Et puis, dire qu'il faut déléguer au local, que les solutions doivent être pragmatiques, s'inscrit en adéquation complète avec ce que veulent les Français. Une des leçons majeures de la crise, c'est cette faillite, entre guillemets, de l'État central et l'idée que le local, plus agile, plus pragmatique, a su mieux gérer.
Donc, laisser faire le préfet des Bouches-du-Rhône et pas Olivier Véran, François Claus, par
la
exemple,
vie est là,
sa
comme
décision.
A dit tout à l'heure, Rosine Bachelot.
Oui, c'est ça.
Collé à la réalité du terrain, effectivement, c'est ce qu'on veut, mais ça génère également énormément de confusion. On l'a vu dans la bataille entre Marseille et Paris il y a quelques semaines. Moi, j'ai quand même le sentiment, contrairement au paysage finalement assez rose que nous dresse Frédéric Dabib, il a des chiffres que je n'ai pas. Moi, j'ai quand même le sentiment d'une énorme confusion, un sentiment de à qui faire confiance et qu'on ne peut plus faire confiance à personne, ni aux politique, si c'est pas le ministre, c'est le préfet, qu'on ne fait plus confiance aux scientifiques. Entre un médecin de Marseille et un médecin de Paris, on ne nous dit plus la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a une perte de repères qui est à terme extrêmement dangereuse, parce que la perte de confiance dans les décideurs, elle était là bien avant le Covid, et j'ai le sentiment que la situation du moment exacerbe ce sentiment-là chez
les
Français.
Tout à fait, d'ailleurs on avait cette perte de confiance face à la pénurie des masques première vague, on a aujourd'hui la lenteur de l'arrivée des résultats de tests en laboratoire qui peut nourrir aussi cette défiance, Laetitia Krupa, des Français vis-à-vis de l'encadrement sanitaire de ce problème.
Le problème c'est qu'en fait il y a une défiance envers le politique, ça bien sûr François vous avez raison, hein, c'est pas nouveau. Mais il y a une défiance envers toute personne qui représente l'autorité, quelle qu'elle soit, parce que la parole aujourd'hui du scientifique est aussi remise en question. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs mois, il y a un écho médiatique, encore une fois, hein, excusez-moi de mon obsession, mais de la parole plurielle du scientifique et plurielle et contradictoire. Alors moi, je vous mets au défi, Wendy, de croire plutôt le docteur X que vous avez entendu hier, à défaut, et plus que le docteur Z que vous avez entendu ce matin.
Oui, pourquoi on retire la confiance que j'ai pu avoir en Olivier Véran, qui nous faisait des points circonstanciés depuis 7 mois, qu'on le fait disparaître du devant de la scène, ça crée quand même une sacrée confusion dans l'esprit des Français.
Oui, parce que la politique s'en est mêlée à un moment donné, vouloir annoncer, regardez, on fait 1 200 000 tests, c'est même au-delà des objectifs, ça ne veut strictement rien dire. Il y a un moment donné où il faut une doctrine qui soit peut-être dictée par des scientifiques et puis incarnée par des politiques. On a l'impression depuis le début, ça a été le cas sur les masques, c'est le cas sur les tests qui ne servaient à rien, et puis après il faut tester tout le monde, et maintenant il faut prioriser les tests, que cette absence de doctrine, eh bien elle est patente. La faute à qui ? Aux scientifiques ou aux politiques ? J'aurais tendance à dire aux politiques.
Frédéric ?
Non, je ne serais pas aussi sévère que François Claus. Je pense que les Français préfèrent que le politique reprenne le lead plutôt qu'être fait baloter, comme le disait Laetitia Krupa, par des avis scientifiques divergents. Il ne faut pas mettre de côté le côté éruptif du pays. L'opinion publique inquiète, qui est toujours confrontée au virus. Alors, ce qui a des effets peut-être positifs pour le politique, ça relègue de côté des craintes en matière économique, notamment, même si elles sont là. L'optimisme des Français pour l'avenir en cette rentrée est un des plus hauts jamais enregistré depuis très longtemps. Ça paraît contradictoire. Mmh. C'est que les Français vivent avec le virus et je pense que Emmanuel Macron
mal,
a plutôt raison de ce point de vue-là, de ne pas imposer un nouveau tour de vis, même si c'est vrai que le baromètre et les Français suivront les points quotidiens de Olivier Véran qui garde une cote satisfaisante, ça sera peut-être une explosion, mais on entend là aussi des avis très très contradictoires du nombre de personnes en réanimation et de personnes décédées.
Mmh. Wendy Bouchard, les grandes voix.
En débat jusqu'à 19h, progrès, vous avez dit progrès, chers amis, 5G. Bien sûr, le sujet, Emmanuel Macron a adressé à tous les réfractaires de la technologie une formule comme il en a l'habitude.
Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Les amis, décidément, ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron s'en prend à cette communauté de religieuses américains. François Claus, en 2017, sur notre...
Moi, je suis lecteur de Lucky Luke, alors je connais bien les amis.
2016, voilà. Il me semble.
2016, pardon. Oui,
2016,
campagne.
Pendant la campagne.
Laetitia Krupa.
Oui, 2016, pendant
qu'est-ce
la campagne.
Qu'est-ce qu'il a contre les amis? Cette arrogance anti-amis,
j'ai un souvenir d'un film extraordinaire qui s'appelait Witness avec Harrison Ford en 85-86. Oui. C'était dans une communauté amiche qui faisait preuve au contraire de sobriété, certes, mais d'une très forte solidarité entre ses membres.
En tout cas, ce qui est génial avec votre question, Wendy, c'est que vous focalisez sur effectivement le problème de ce genre de punchline. Pourquoi ? Parce qu'elle kidnappe complètement le débat. Vous êtes en train de vous demander pourquoi il s'acharne contre ses amish et en filigrane, pourquoi le président est-il aussi méprisant ? Or, la question, c'est est-ce qu'il a raison ? Ou pas ? Est-ce que la 5G a des effets sanitaires néfastes sur la santé, sur le climat ? Est-ce qu'il faut un moratoire ? En fait, c'est ça le problème. Et là, on est en train de s'étriper entre commentateurs sur amish, not amish.
Oui, mais
et finalement, on ne pose pas les vraies questions.
Moi, je pense qu'il a eu tort de... Il a complètement clivé le débat.
C'est ça, ce que j'allais vous dire.
Grosso modo, voilà, la 5G, c'est comme ça. Et si vous êtes contre, eh ben, retournez avec vos carrioles. Mais on peut être pour la 5G, mais aussi se dire qu'il faut peut-être verrouiller mieux sécuritairement face à la menace chinoise. On peut être contre la 5G pour des raisons de santé, mais se dire que peut-être avec un débat, et là en redonnant la parole à de vraies études, on pourrait demain être convaincu. Non, là c'est fermer le banc, c'est comme ça et pas autrement. Mmh. Et je pense qu'il retombe dans cette arrogance qui lui fait vraiment défaut et qui lui colle à la peau.
Oui, un combat binaire et l'outrance toujours.
Oui, c'est vrai que la cannibalisation du débat par cette punchline dont parlait Laetitia Erel, et quand on interroge les Français, ils sont plutôt équilibrés. Une enquête qu'on vient de publier pour le site Les Mondes montre qu'une majorité de Français, 63%, dans une majorité de sympathisants à l'époque GVR, pensent que les pouvoirs publics doivent faciliter le déploiement de la 5G, mais ça n'empêche pas des craintes, parce que sur cette question, il y a des craintes liées à la vie privée, des craintes environnementales, des craintes liées à la santé, et c'est vrai que le lien santé-environnement est extrêmement fort, ce qui amène presque un Français sur deux à souhaiter un moratoire sur la 5G. Donc le débat commence, il y a des questions de connaissance, bien sûr. Idéalement, il faudrait faire sur cette question une conférence citoyenne, sachant que la Convention climat s'était, je crois, prononcée
pour
un moratoire. Mais avec un moratoire.
Ça me paraît d'autant plus injuste que peut-être, et c'est l'un des effets positifs, s'il faut en trouver à la pandémie qu'on traverse, on n'a jamais été autant dans le questionnement sur pourquoi aller toujours plus vite ? Pourquoi aller loin aujourd'hui ? Donc, on peut légitimement poser cette question-là que le président de la République refuse de poser.
Vous êtes réactionnaire, François.
Oui, je suis amiche. J'y retourne.
Non, juste un petit point très factuel. Le 29 juin, quand Emmanuel Macron a fait son discours suite à la Convention citoyenne sur le climat, il a mis comme ça 2-3 points en disant « sur ça, on n'ira pas ». Mais il n'a pas du tout parlé du moratoire et de la 5G. Donc, sous-entendu, il était d'accord avec la proposition des citoyens ce jour-là.
C'est ça. Mais alors le problème, est-ce qu'on doit lire entre les lignes et considérer que, manifestement, entre Dupond-Moretti qui parle d'ayatollah vert, ses amis qui reviennent dans le débat régulièrement, les verts sont aujourd'hui les hommes et les femmes à abattre très clairement. Alors, et là, pour le coup, la campagne est lancée.
Oui, au-delà de la 5G, il y a aussi un contexte où des prises de position de maires verts récemment élus ont plutôt été rejetées par les Français. Du sapin de Noël mort de Pierre Rumic au propos sur le Tour de France avec un élu de Paris qui a remis une pièce, si je puis dire, en parlant d'opium du peuple face à des champions hyper dopés, ce qui n'est absolument pas le regard des Français. Moi, cette délégitimation des premières prises de position des Verts rappelle ce qu'on avait vu en 1995, alors toute proportion étant égale, où quand le FN avait gagné de très nombreuses villes dans le Sud, notamment Toulon, des décisions assez iconoclastes et très contestables des maires FN avaient fini par décrédibiliser ce parti et amener la scission de Bruno Maigret à suivre du côté des Verts.
Laetitia ?
En tout cas, c'est sûr qu'il y a un calcul politique dans ces punchlines, dans ces amish-là et dans cette façon de polariser le débat. En gros, qu'est-ce que nous dit Emmanuel Macron ? Il cornérise les maires écolos, vous avez raison, et leur proposition loufoque et impopulaire. Et il veut incarner l'écologie moderne. Il ne met pas complètement l'écologie de côté, pas du tout. Lui se présente en candidat potentiel pour 2022, incluant l'écologie dans son programme.
Alors, vous rajoutez de la culture, de l'intelligence. Il fait du Trump, quand même, à certains égards, pour vous, François Claus ?
Du Trump intelligent, un peu plus intelligent peut-être, oui,
Trump,
mais il y a de ça, et malheureusement aujourd'hui, qui ne fait plus de la politique comme ça. Ceux qui en font autrement, on ne les entend plus, on ne les voit plus. J'en parlais dans mon coup de cœur là, en évoquant le livre la semaine dernière d'Alice Zeliter, Comme un empire dans un empire. Mais oui, on est exactement dans cette logique-là. Je ne suis pas sûr, et là Frédéric Dabilly est peut-être mieux placé que moi pour le dire, que du côté français, on cède aussi facilement à ces punchlines. Je pense que ça peut être à double tranchant.
Bah oui, parce que ça fait une sorte de ministère de la parole alors que les Français attendent des actes. Et n'oublions pas que ce sont sur les questions environnementales, sur ces seules questions, que l'action d'Emmanuel Macron est perçue en termes d'inaction et d'absence de résultats.
Et voilà, CQFD, Frédéric Dabi de l'IFOP. Merci cher Frédéric, merci. À samedi prochain. Laetitia Krupa et François Coche, je vous donne rendez-vous demain.
À demain.
Compagnie Philippe Moreau-Chevrolet. Merci pour ce débat des grandes voix qui nous accompagne donc chaque samedi, chaque dimanche jusqu'à 19h.